Maintenant, il y a 3 semaines que on a annoncé par le groupe au Liban qu'il y aura une guerre à outrance cet été. Alors vous savez, la Bible donne beaucoup de détails sur ce qui va se passer, mais ne dit jamais quand. Alors il est fort possible que cette guerre aura lieu cet été, mais nous ne pouvons pas le dire avec précision. Nous ne le savons pas. Mais il y a des choses que nous savons tout de même. C'est que, à l'heure actuelle, la Syrie, qui a armé Hezbollah au Liban, ils ont maintenant passé les missiles Scud. Ce qui veut dire que, maintenant, au lieu de simplement tirer à quelques kilomètres, ils peuvent atteindre depuis le Liban, Jérusalem et Tel Aviv. Donc la chose devient beaucoup plus sérieuse. Alors la Syrie et Hezbollah ont divisé le pays d'Israël en morceaux séparés, des cibles séparées, et chacun est censé d'atteindre telle ou telle cible. Au moment précis, à un moment donné, tous les missiles doivent partir ensemble. Sachant que l'espionnage israélien est très fort, ils changent des cibles virtuellement de semaine en semaine pour qu'on ne sait pas qui va tirer vers quoi. Donc c'est la question qui se pose, est s'ils sont tellement prêts, comment se fait-il qu'ils ne lancent pas la guerre? C'est simple, c'est qu'ils ne veulent pas faillir. Le but, c'est d'éliminer Israël de la carte. Mais pour faire cela, il faut qu'ils attaquent le pays de partout à la fois. Alors, ils attendent surtout la Jordanie et l'Égypte pour se mettre avec eux, afin qu'à un moment donné, l'attaque peut venir de tous les côtés d'ensemble. Vous dites, est-ce que le but c'est de tuer tous les Juifs qui sont là? Non, pas forcément. Ils ne veulent pas forcément tuer tous les Juifs. Ce qu'ils veulent surtout, c'est de faire en sorte qu'Israël ne soit plus une nation, affaiblie totalement des étrangers dans leur pays, contrôlée par les Palestiniens et d'autres, ou qu'ils quittent le pays carrément pour retourner là, dans le pays d'où ils sont venus au début. Alors voilà la situation actuelle. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis une semaine. Est-ce que vous avez remarqué qu'on ne parlait que de cette guerre entre Israël et la Turquie? C'était tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et cette semaine, pas un mot. Comment se fait-il? Ils ont tourné le robinet. Il y a des gens qui contrôlent les médias. Et ils poussent ce qu'ils veulent, ils ferment ce qu'ils ne veulent pas. Donc actuellement, ils ferment parce qu'ils ne veulent pas que ça soit trop là devant tout le monde. Parce que comme cela, ils peuvent travailler derrière les portes, en secret, faire des combines qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et actuellement, on fait beaucoup de combines. Depuis dimanche dernier, l'Amérique a virtuellement basculé de l'autre côté, du côté de l'Europe. Parce que l'Europe, depuis un bon moment, a voulu qu'on lève le blocus. Hier, l'Espagne a déclaré que demain, le 14 juin, ils vont porter devant le Conseil européen le désir de mettre toute l'Europe contre Israël pour qu'il lève le blocus. Alors, ce qui est arrivé ces derniers temps, c'est que on a évité une guerre entre la Turquie et Israël. Vous savez quand ce bateau d'Irlande est venu? Ce que peut-être vous ne savez pas, mais la Turquie avait déjà décidé de quitter le Chypre, où ils ont des bateaux de guerre, avec l'armée qui est située en Chypre, d'attaquer en même temps avec ce bateau pour essayer de forcer le blocus. Qu'est-ce qui les a arrêtés? C'est quand l'Amérique a su qu'ils allaient faire cela, que Obama a téléphoné au président Sarkozy pour lui dire « Écoute, la Turquie a l'intention d'envoyer les bâtiments de guerre. Téléphone immédiatement à Erdogan, qui est le premier ministre de Turquie, et dis-lui que si tu fais cela, tu ne seras pas bien accepté par l'Europe. Et tu veux devenir membre de l'Europe. Alors si tu veux devenir membre de l'Europe, surtout ne mette pas tes bateaux de guerre en mouvement. » Et moi, de mon côté, Obama, moi je vais lui dire la même chose, mais je vais lui dire que tout l'ONU sera contre lui et l'Amérique, qui est votre ami, mais vous allez nous mettre dans mauvaise posture. Alors quand les deux ont téléphoné, parce que chacun a téléphoné, la Turquie a décidé de ne pas entrer en guerre. Beaucoup de choses se passent sans qu'on le sait. Alors aujourd'hui, donc, il y a des situations, que je vais vous dire un peu plus tard, qui se passent à l'heure actuelle. Incroyable. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a les pays belligérants qui veulent à tout prix démolir Israël maintenant. Ils sont la Turquie et l'Iran qui ont fait une pacte maintenant, une alliance entre les deux pays solide. Et ça, c'est dangereux parce que la Turquie fait partie de l'OTAN. Alors ça met l'Amérique en très mauvaise posture vis-à-vis de la Turquie. Mais ils sont maintenant liés comme un seul homme. Avec eux, il y a la Syrie. Donc ça fait tous les trois qui sont liés là maintenant. La Turquie, la Syrie un peu, traîne un peu le pied parce que la Syrie est arabe. Et la Turquie et l'Iran ne sont pas arabes. Ils sont islamiques, mais ils ne sont pas arabes. Alors les Arabes sont un peu, ont le pied un peu froid vis-à-vis de cela, mais ils sont quand même liés parce que l'Iran a fourni la Syrie avec tous les missiles. Donc ils sont quand même très liés, ces trois-là. Alors les autres, la Jordanie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite sont les pays favorables à l'Ouest. Surtout l'Arabie Saoudite. Mais l'Égypte, et voilà le problème, c'est que la Syrie attend que l'Égypte entre dans l'affaire. Parce qu'ils ont besoin de l'Égypte pour passer des armes en Gaza. Et l'Égypte a hésité de le faire parce que l'Égypte encaisse des centaines de millions de dollars chaque année de l'Amérique pour ne pas bouger. Mais tout cela a changé. Tout à l'heure, je vous le dirai. Mais cela dit, c'est que nous sommes maintenant en train d'attendre que l'Égypte se déclare entièrement du côté des trois belligérants et forme le bloc solide pour que Israël soit attaqué du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, surtout si les bateaux de la Turquie entrent en jeu. Aussitôt dit que la Turquie n'allait pas attaquer, Erdogan a dit, voilà, dans ce cas-là, je vais donner 10 millions de dollars pour qu'on achète 8 bateaux et on va faire une autre armada, mais plus grande cette fois-ci, et on va aller là-bas. En plus de cela, il a limogé de son cabinet un bon nombre d'hommes très intelligents et très, très posés pour les remplacer par les jeunes qui sont dynamiques et qui veulent la guerre. Voilà la situation actuellement. Et après cela, je vais cesser maintenant de parler de ce qui arrive ces jours-ci pour regarder la Bible, parce qu'elle parle aussi de ces jours-ci. C'est ça qui est incroyable. Et je vais demander à Emmanuel maintenant de lire dans les psaumes, et regardez dans les psaumes 83, C'est Dr. Israël qui m'a fait remarquer ça. Je ne l'ai jamais vu auparavant, mais c'est extraordinaire ce psaume 83. On va le lire tout doucement ensemble et je vais faire noter des choses importantes.
Psaume 83, cantique psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël.
Voilà, donc ce sont les nations qui veulent exterminer, exactement ce que je viens de vous dire, Israël de la carte, qu'on n'en parle plus d'Israël, car les nations sont persuadées que tout le mal, tout le problème du monde entier vient du fait qu'Israël existe. Si Israël n'existait pas, il y aura la paix sur la terre, tout le monde ira bien. Ça, c'est la source de tout le mal. Disent-ils.
Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens.
Moab et tout cela, maintenant, il est en train de parler des nations qui sont tout près d'Israël. Moab, Ammon et l'autre forment.
Édom
forme ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Alors vous allez voir la Jordanie constamment là-dedans. À tel point, il y a un verset quelque part que j'ai essayé de trouver, que je ne suis arrivé pas, qui laisse supposer que l'attaque en premier lieu viendra de la Jordanie, le pays où ils attendent le moins. Et ça c'est normal parce qu'on est toujours prêt pour les pays les plus belligérants, mais la Jordanie était une amie avec Israël jusque maintenant. Il se peut très bien, je ne peux pas le dire avec certitude, mais c'est fort possible que l'attaque en premier sera la Jordanie qui va les surprendre.
Gébal, Ammon, Amalek, voilà. Les Philistins avec les habitants de Tyr, l'Assyrie aussi.
Les habitants de Tyr, c'est les Libans. Alors là, vous avez le Liban et vous avez la Jordanie.
La Syrie aussi se joint à eux.
Ah, la Syrie aussi, là-dedans.
Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeeb, et tous leurs princes comme Zébar et Tsalmouna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu, mon Dieu. Rends-les semblables aux tourbillons.
Alors, j'aime ça. Emparons-nous de quoi?
Des demeures de Dieu.
Demeures de Dieu. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par cela? Ils se moquent. Ils disent, voilà, ils disent qu'ils sont de Dieu. Mais alors, prouvez-le. On va vous montrer que vous n'êtes pas de Dieu parce qu'on va vous exterminer de la terre. Ça, c'est, n'est-ce pas? C'est une menace qui vient.
Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes.
Voilà, on s'arrête là dans la lecture de ce psaume, mais vous voyez comment ça harmonise avec ce qui se passe à l'heure actuelle quand les nations se liguent contre Israël. Maintenant, cela lu, il faut maintenant qu'on voit le grand passage où il s'agit justement de cette guerre que nous appelons israélo-arabe, la grande guerre vers la fin des temps. Avant d'entamer cela, il faut que je donne quelques explications. Quand on lit les prophéties, comment savons-nous que ces prophéties n'ont pas eu lieu déjà? Parce que ces prophéties datent de 2700 ans. Alors, quand on parle de 2700 ans, on peut dire, voilà, mais tout cela est déjà arrivé. Il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est est-ce que c'est déjà eu lieu dans l'histoire? Deuxièmement, s'il y avait, par exemple, la destruction d'une ville, parce que des villes ont été détruites à travers des années, conquis et abattues et tout le reste, mais reconstruites de nouveau, ce qui est aussi à voir, est-ce que ce qui se passait après est déjà ce qui se passait dans le temps ou est-ce que c'est un autre tableau, un autre scénario qui se présente là. Alors, quand on lit donc les passages bibliques, il faut se rendre compte de ceci. De deux choses l'une. Où la prophétie a eu lieu. Au temps des prophètes, ou juste tout de suite après, où ils auront lieu à la fin des temps. Il n'y a pas d'accomplissement de prophétie entre tout ce temps-là. Parce que ce temps-là, c'est l'âge de la grâce. Les prophéties bibliques s'arrêtent avec la mort de Christ. Israël va vous donner tout cela. Toutes les prophéties qui parlent de la mort de Christ, de sa venue, de tout, même le lieu de sa naissance à Bethléem, tout est écrit en détail. Mais après cela, c'est fini. Après la descente du Saint-Esprit, c'est terminé jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il n'y a rien là-dedans de Charlemagne, de Napoléon, d'Alexandre le Grand. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à faire avec Israël. Les prophéties ont toujours à faire avec Israël. Et quand Israël n'est pas dans l'affaire, les prophéties ne s'appliquent pas. Israël est né en 1948. À partir de 1948, de nouveau, on est dans les temps prophétiques. On vit actuellement dans les temps bibliques actuellement, comme au temps de Jésus. Et c'est pour cela que c'est d'autant plus intéressant, pour quelques-uns inquiétant, parce qu'on s'approche de quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir maintenant de ce qui va se passer. Parce que Zacharie, chapitre 12, va nous expliquer plus en détail. J'attends que vous regardiez, si vous voulez, Zacharie 12. Et quand vous voyez ce passage-là, il faut comprendre que pour la plupart des gens, des pasteurs, je dis, ils mettent toutes les guerres de la fin des temps dans une seule, qu'on appelle dans la Bible Armageddon. La plupart des églises ne connaissent pas autre chose que Armageddon. Mais la Bible parle de deux autres guerres. La guerre israélo-arabe, la guerre de la Russie, Gog et Magog, et puis Armageddon. Alors, vous dites, mais comment savez-vous distinguer entre l'une guerre et l'autre guerre et la troisième guerre? Parce qu'il y a des différences flagrantes. Nous allons les noter au fur et à mesure qu'on regarde les passages. Je vais demander à Manuel de lire maintenant en Zacharie chapitre 12.
Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour.
Alors voilà, ça c'est extraordinaire. Jérusalem sera une coupe d'étourdissement. Qu'est-ce qui rend les nations complètement fous? Jérusalem. Jérusalem. Même les Arabes, ils ont dit, Israël a dit, voilà, on va vous donner ceci et cela. On veut Jérusalem. Jérusalem. Et c'est à cause de Jérusalem que tout ceci va venir à un point tel que ça va exploser.
Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples.
Voilà.
Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Verset 6. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda.
En ce jour-là, sachez que quand vous voyez en ce temps-là, en ce jour-là, c'est, vous êtes certain que c'est pour la fin des temps. Ça sont des expressions pour la fin des temps. En ce jour-là,
je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem.
Des chefs de Juda comme une torche brûlante parmi des gerbes. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention de réduire Israël à néant. Et comme cela, il y aura la paix. Mais ici, ça dit que les chefs de Juda, c'est-à-dire les armées, les politiciens, les généraux, vont par contre livrer la bataille à ces nations, et le mot c'est d'alentour. Les nations d'alentour. Alors, comment distinguer cette guerre de Armageddon? Mais pour plusieurs raisons. En Armageddon, ce n'est pas Israël qui gagne, tandis qu'ici, c'est Israël qui gagne. Les chefs de Juda vont brûler toutes les nations d'alentour, c'est-à-dire brûler l'Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Alors voilà, donc ils vont brûler toutes ces nations d'alentour. Dans la guerre d'Armageddon, Israël sera dans son pays tremblant, ne fera rien, c'est Christ qui va venir du ciel pour les délivrer. Dans la guerre de Gog et Magog, qui est le sujet la semaine prochaine, Gog et Magog, c'est la descente de la Russie avec la Turquie et d'autres pays pour attaquer Israël. Mais alors là encore, ce n'est pas les chefs de Juda qui vont gagner, mais c'est Dieu lui-même qui va faire pleuvoir des grêles du ciel. Alors on va voir ça la semaine prochaine. Donc chaque guerre a des choses qui les séparent des autres et qui les distinguent, à tel point qu'on sait que maintenant nous sommes devant la guerre de Zacharie 12, la grande guerre où les nations d'alentour vont s'attaquer à Jérusalem. Alors, qui sont ces nations maintenant? On va les voir petit à petit. On va prendre, je crois, c'est Ésaïe 17, n'est-ce pas? Regardons ce verset. C'est ce verset-là qui m'a lancé sur la piste. Sans ce verset, je ne serais jamais engagé dans toutes ces explications. Mais voilà le verset. Ésaïe 17, 1.
Oracle sur Damas, voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines.
Ah, c'est tout. Mais c'est tout et c'est beaucoup. Ça dit, Damas ne sera plus une ville, elle restera pour toujours un tas de ruines. Savez-vous que Damas est la plus vieille ville du monde entier qui n'a jamais été vidée ni conquise. C'est la seule. Donc, c'est un verset qui attend son accomplissement. Damas, tu ne seras plus une ville, tu ne seras qu'un monceau de ruines. Donc, Damas sera détruite. Alors, rappelez-vous, Zacharie 12, et il dévorera toutes les nations d'alentour. La Syrie en est une des nations qui entoure Israël et c'est elle qui s'arme le plus, aidée par l'Iran, pour attaquer Israël à l'heure actuelle. Maintenant, il y a une autre nation et nous sommes maintenant en chapitre
19.
Oui.
Ésaïe 19, verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction ou ville du soleil.
Voilà. Donc, ici, on découvre qu'en Égypte, il va avoir à la fin des temps une ville qui s'appellera la ville qui a été totalement détruite. Alors, pourquoi n'ont-ils pas nommé la ville? Parce que cette ville n'existait pas à cette époque-là. Le Caire est une ville assez récente, pas comme Nof et des autres là-bas. C'est une ville qui est maintenant la plus grande, située tout près des pyramides. C'est la capitale d'Égypte. Alors là, cette ville, d'après la Bible, une ville non pas nommée, mais il y aura une ville en Égypte, qui sera toujours connue comme la ville qui a été entièrement détruite. Alors là, vous avez le Caire qui disparaît de la carte. Avant d'aller plus loin, j'aimerais m'arrêter un instant et qu'Emmanuel va lire un peu plus loin dans le même passage, quelque chose qui est intéressant à noter tout de même, en passant.
Ésaïe 19, verset 22. « Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. »
Ils se convertiront à l'Éternel, à Jéhovah. Eux qui ne connaissaient que Allah. Allah va être oublié et ils vont se tourner vers le Dieu d'Israël, Jéhovah.
En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction.
Alors là, vous avez Israël lié avec la Syrie et avec l'Égypte. C'est-à-dire à la fin des temps, pendant le millénium, les trois villes seront ensemble. Ils seront des plus grands amis. C'est quelque chose, ça, quand on le voit. Qu'est-ce qui sépare les Israéliens des pays arabes? La religion. C'est justement, c'est que, vous prenez par exemple les Arabes, si vous ne mettez pas la haine dans leur cœur de vouloir tuer tous les Juifs, etc., etc., mais les Arabes, c'est un peuple super, c'est un peuple magnifique. J'étais en Israël, il y a 20 ou 30 ans là maintenant, et j'étais parmi les Arabes, mais alors, gentil comme tout, toujours prêt. Mais alors, c'est la religion qui les enflamme. Ils sont enseignés dans l'école maternelle. Quand tu vois juif, tu le hais, tu le tues. Tu le hais, tu le tues. Ils sont élevés avec ça. Mais vous enlevez ça, vous enlevez l'islam, et vous avez un peuple formidable. Un peuple qui va vivre avec les Juifs à la fin des temps, ils seront comme un seul peuple. C'est extraordinaire, ça. Dans le passage qui a été lu tout à l'heure, que j'ai oublié, quand on était... Non, je sais pas. Non, on va prendre la troisième ville. Un Sophonie. Hein?
Prophète Sophonie, chapitre 2, versets 8 et 9. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon.
Ammon, Moab, tout ça, c'est la Jordanie.
Quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorre, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les payera, le reste de ma nation les possédera.
Réduit comme Sodome et Gomorre. Une ville en Égypte disparaît et connue sous le nom la ville qui était entièrement détruite. Damas ne sera plus une ville, ça ne sera qu'un amas de ruines. Mais qu'est-ce qui se passe? Juste avant que je vous dise ce qui se passe, j'ai oublié de vous dire quelque chose quand on a lu psaume 83. Dans le psaume 83, il y a un mot qui est mentionné là. Ça s'appelle les Assyriens. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais les Assyriens ont été mentionnés là-dedans. Qui sont les Assyriens? Je vais vous dire, les Assyriens, écoutez maintenant, parce que c'est fort intéressant. C'était une grande puissance, même avant l'Empire babylonien. C'était en même temps avec l'Égypte. Une grande puissance dans le Proche-Orient. Et quels étaient les pays maintenant qui formaient autrefois la Syrie? Je vais vous le dire. La Turquie, l'Iran, la Syrie et l'Irak. Ça parle long. Les mêmes pays que nous venons de voir tout à l'heure. Tout ceci lié. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'étais en Israël, J'ai parlé avec un capitaine de l'armée israélienne, et c'était tout de suite après la guerre de Kippour. C'était la dernière grande guerre là-bas en Israël. Alors, je lui dis, alors, je crois que vous avez la bombe atomique, n'est-ce pas? Bien sûr, à ce moment, même maintenant, ils ne veulent pas l'avouer. Oh, comme ça, il a dit. Et j'ai dit, et comment vous croyez qu'il y aura une autre guerre? Il a dit, certainement. J'ai dit, est-ce que ça sera terrible? Il a dit, horrible. J'ai dit, mais est-ce que ça va durer longtemps? Il a dit, vous savez, nos premières guerres, ça a duré des semaines. Deuxième guerre, ça a duré une semaine. Cette dernière guerre ici a duré juste quelques jours. La prochaine guerre, il a dit, ne durera que 2 ou 3 heures. Parce que quand on sera attaqué de tous les côtés, imaginez, ça fait tout de suite après la guerre de Kippour, donc il savait ça, et ce n'était pas le président, c'était un capitaine dans l'armée israélienne. J'ai dit, si vous êtes attaqué de tous les côtés, est-ce que vous utiliserez les bombes nucléaires? Il a dit, à votre avis. À votre avis. Vous savez, quand on lit détruit comme Sodome et Gomorre, c'était des cendres, une ville rasée, alors il est fort possible, mes chers amis, écoutez-moi bien maintenant, si Israël est attaqué de tous les côtés dans le but de le rayer de la carte comme une nation, ils vont mettre le paquet. Et si les bombes nucléaires tombent sur Damas, le Caire et Hamon, ces 3 villes cesseront d'exister. J'ai calculé le nombre de morts, si ça arrive, c'est à peu près 15 millions de morts. Si Israël efface de la carte 15 millions de gens, si vous croyez qu'il y a l'antisémitisme dans le monde aujourd'hui, imaginez ce qui se passerait s'il tue 15 millions. Alors là, il y aura une persécution à outrance. Les Juifs vont partir le plus rapidement possible, ceux qui peuvent, vers Israël, leur refuge, leur seul refuge. Parce qu'à ce moment-là, Israël va prendre tout le Proche-Orient. Parce que quand ils vont prendre ça, ils vont passer au-dessus de l'armée irakienne, qui n'est pratiquement rien du tout. Ils vont élargir leur pays depuis l'Euphrate jusqu'à l'Égypte. Tout le Proche-Orient sera Israël. Alors, la haine va grandir de plus en plus, de plus en plus. Alors, lis encore, il y a un autre passage, je crois, en Jérémie.
Jérémie 16, 14 à 16. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés.
Donc c'est pour maintenant, parce que ça place la guerre à notre époque.
Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père.
Oui.
Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers.
Voilà. C'est-à-dire, ça c'est la persécution. D'abord, les nations vont les pêcher, c'est-à-dire le filet. On va attraper beaucoup à la fois. Alors, je ne dis pas que tout de suite, il va y avoir la mise à mort. Mais il y a la persécution, ça ne va pas prendre longtemps. J'espère que, avant qu'ils se réveillent totalement, les nations, j'espère que les Juifs vont se réveiller pour partir. Parce qu'à la longue, ils vont commencer à les tuer. Il y a un verset que j'ai essayé de trouver, que je ne trouvais pas, cette fois-ci, c'est que la Bible dit « Il ne laissera pas un seul Juif dans aucun pays du monde ». Ça veut dire que tous les Juifs, à la fin des temps, seront en Israël. Ça, c'est important, parce que c'est tout ce qui va se passer là-bas à la fin des temps. Et ça nous prépare pour le message de la semaine prochaine de Gog et Magog. Ce que je veux dire maintenant, c'est qu'il y a dans ce passage, en Sophonie 2, des versets que j'ai trouvés pour la première fois la semaine dernière. Écoutez-les. Sophonie 2, écoutez-les maintenant, parce que c'est très important ça.
Sophonie 2, 4 à 6. Car Gaza sera délaissé.
Ah, Gaza sera délaissé, c'est-à-dire abandonné, oublié. Il y a plusieurs traductions, oublié. Gaza n'est pas ni oublié ni abandonné maintenant, c'est le centre du monde. On ne parle que de Gaza. Donc, c'est un verset qui va se passer bientôt. Parce que ça dit, Gaza sera oublié, donc c'est maintenant.
Ascalon sera réduite en désert. Asdod sera chassé en plein midi. Écron sera déraciné.
Voilà. Et on continue.
Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux.
Les deux villes ont été détruites dans le temps. Ascalon et Ashdod. Je donne les noms plutôt américains, mais c'est plus près de d'Hébreu aussi. Ashkelon et Ashdod, c'est beaucoup plus près. Elles étaient toutes les deux détruites, mais elles ne sont jamais devenues des pâturages pour des brebis. Je vous ai dit, il y a des signes qui montrent que c'est, à quelle époque c'est. Maintenant, nous sommes à l'époque où Ashkelon et Ashdod seront détruites. Quand Ashkelon sera détruite, parce que Ashkelon est à 25 km de Gaza, probablement le matin, parce que ça dit que Ashdod va apprendre ça et ils vont quitter la ville à midi. Donc certainement ça sera détruit le matin, ils vont quitter la ville à midi. Mais beaucoup vont quitter Ashdod parce qu'ils ont vu que Ashkelon est détruite. Mais les gens d'Ashkelon, qui va les avertir? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont visés? Est-ce qu'ils savent qu'il y a deux marins, sous-marins, iraniens qui se promènent dans la Méditerranée, tout près, là, à n'importe quel moment? Vous savez qu'ils peuvent attaquer à n'importe quel moment Ashkelon et détruire Ashkelon complètement de la terre? Qui va les avertir, cela? Vous savez, j'ai parlé avec Dr. Israël. J'ai dit, mais vous savez, il y a pas mal de gens à Ashkelon. Il a dit des dizaines de milliers. Qui va croire? Si on allait là-bas, est-ce qu'il croirait que les villes seront bientôt détruites? Qui va les avertir? Est-ce qu'on les laisse tuer? Ils vont voir à ce moment que la Bible est vraie. Vous savez, quelquefois, on est mis devant des situations difficiles. Et voilà, la Bible est là. Et nous sommes dans les derniers temps. Peut-être tout ceci vous laisse froid. Peut-être vous dites donc, tout cela, on verra. Pour moi, ça ne me laisse pas froid, parce que depuis 62 ans, j'attends ça. Et je savais que ça allait venir, mais maintenant, on y est, on est là. On est au moment même. Les bateaux, peut-être, vont partir. Iran a dit qu'ils allaient envoyer 3 bateaux. Un bateau de provisions, un bateau rempli de gardes républicains pour tirer sur les Israéliens, et un bateau hôpital pour dire, bon maintenant, osez attaquer notre bateau hôpital, vous allez voir l'opinion publique mondiale. On vit maintenant dans la Bible. Nous sommes le peuple choisi de Dieu pour vivre à cette époque, pour une raison. Pour avertir, pour prêcher, pour gagner des âmes. Nous y sommes, mes chers amis. Et avec ces mots-là, je termine ce message ce matin. Et après, nous allons pouvoir poser des questions et voir ce qu'il y a en plus.